France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Ce soir, je reçois Xavier Legrand. Vers 19h45, le son du jour, Koumafo, par les Amazones d'Afrique. Vers 19h50, le grand tour de Marie Sorbier, qui est toujours dans l'Aveyron. Et après la visite hier du musée Pierre Soulages, elle nous emmène découvrir ce soir l'abbaye de Conques, dont les vitraux ont été réalisés par le plasticien en 1994. Le tout est réalisé par Alexandre Fougeron avec Ludovic Auger à la prise de son. Bonsoir Xavier Legrand.
Bonsoir.
Votre nouveau film Le Successeur sortira demain sur les écrans, ce qui me donne évidemment l'occasion de vous accueillir pour parler de ce film, mais aussi pour revenir sur votre parcours avec un goût pour le théâtre qui commence très tôt, parce que selon la légende familiale, il paraît que dès l'âge de 4 ans, lorsque vos parents regardaient du théâtre à la télé, vous restiez fasciné devant l'écran. Et puis il y a cette scène primitive en CM1 quand votre maîtresse vous demande de jouer à un enfant en chaise roulante devant des enfants qui, eux, le sont réellement. Vous découvrez là le pouvoir du comédien, Xavier Legrand.
Oui, j'ai un très grand souvenir très précis de ce jour-là où j'ai été traversé par, j'ai pas envie de dire que c'est comme l'appel, mais j'ai vraiment trouvé un sens, j'ai trouvé un sens à tout ça. Ça a été vraiment la révélation, ouais. J'avais envie de continuer de faire ça.
Alors CM1, vous avez quoi, 9-10 ans, j'imagine. Alors c'est l'âge. Ensuite, vous avez commencé à prendre des cours de théâtre. Alors ce que vous allez faire dans différentes villes, parce que le métier de votre père l'amène à avoir souvent des mutations de ville en ville, ce qui est quand même pas très évident pour un enfant ou un adolescent. Est-ce que vous diriez rétrospectivement, sans être trop grandiloquent, que le théâtre c'était déjà votre maison où que vous soyez?
Oui, on peut dire ça. On peut dire que ça a été vraiment quelque chose qui... J'étais pas forcément tout le temps à l'aise en plus à l'école. J'étais un élève sérieux, mais j'étais pas forcément brillant. Et du coup, je sentais que dans le cours de théâtre, il y avait vraiment et une aisance et que j'avais ma place et qu'on aimait ce que je faisais. Donc c'est là, ouais, il y avait vraiment à chaque fois la scène et un peu comme une petite maison. Ouais.
Alors parmi ces maisons, il y en a une qui est importante avec un des professeur qui est Patrice Albertini. En quoi il a été particulièrement important, lui ?
Lui a été important parce que j'ai vraiment commencé le théâtre avec lui et que je l'ai accompagné pendant toute ma scolarité et parce qu'on a tout de suite travailler les grands textes, Molière, Racine, puis Jean Giraudoux aussi. Donc il m'a donné le goût du texte, le goût de la poésie, la liberté aussi, et aussi parce que il y a eu un moment donné où ma mère a traversé un moment difficile de chômage et il était question que j'arrête les cours qui étaient quand même assez chers parce que c'était des cours privés, et Patrice a eu cette élégance et cette générosité de dire non, c'est une très mauvaise raison pour que tu quittes le cours, et je suis resté quand même faire des cours avec lui gratuitement. Donc je le salue. Sans lui, peut-être que j'aurais changé de voie.
Puis sans votre mère, en effet, puisque non seulement il y a cette générosité de Patrice Albertini, mais ensuite, j'avance un peu dans le temps, pour la seconde, le seul lycée qui propose l'option théâtre, il est très loin de là où vous habitez. Et donc il faut que vous partiez loin du domicile parental, sans internat. Donc il faut louer un studio.
C'est ça.
Et vous allez vivre 3 ans, ces années lycée. Seul, pour pouvoir faire cette option théâtre.
Exactement, pareil, ma mère qui...
C'est un soutien incroyable.
C'est un soutien incroyable, oui, bien sûr. Elle a, en plus, elle a cumulé plusieurs emplois pour pouvoir arrondir les fins de mois. Moi-même, je travaillais aussi un peu au noir. On avait des amis qui tenaient un restaurant, et le week-end, je prenais mes cours de théâtre l'après-midi, et le soir, j'étais extra pour avoir un peu d'argent de poche pour la semaine, pour m'acheter à manger. Non, c'était, bon, voilà, il n'y a rien. J'ai manqué de rien, mais c'était pas, voilà, il a fallu beaucoup de travail pour qu'on puisse continuer à ce que je suive cette voie, quoi.
Fallait-il avoir le feu sacré, quand même?
Ouais. Enfin, en tout cas, être passionné, oui. Oui. Et être sûr, est-ce qu'on l'est vraiment? Mais je pense qu'il y avait cette certitude que ma place était dans la fiction.
Ouais. Et puis ensuite, Xavier Legrand, vous entrez au Conservatoire National Supérieur d'Art Dramatique, ce qui, là encore, n'est pas donné à tout le monde. Ça s'est passé comment, le concours?
Oh, ça c'est un concours assez difficile parce qu'il y a beaucoup de candidats et peu d'élus. Ouais. Je l'ai passé 3 fois. À l'époque, voilà, il y avait une limite d'âge qui était plus restreinte avec un nombre de fois. La première fois, je l'ai passé, j'étais pas prêt du tout puisque je venais d'avoir mon bac, j'avais 18 ans. Ouais. Je me souviens très bien de Catherine Yégel qui me dit, vous êtes très bien, mais vivez encore un peu.
Oui, revenez-nous voir plus tard.
Et voilà, et je l'ai eu, au bout de la troisième tentative.
Avec notamment Catherine Yégel, que vous aurez comme professeur, aussi Nana Sancar, Daniel Mesguich, Jola Vaudan, Julie Brochen, que vous retrouverez dans votre parcours. Question que je pose souvent, mais vous pensez qu'on apprend quoi dans les écoles? Et en l'occurrence, vous avez appris quoi au conservatoire?
On apprend à se développer techniquement. Ça, c'est incontestable, bien sûr, avec l'entraînement, le fait de se lever tous les jours pour jouer, pour se perfectionner. C'est quand même assez rare, quand on est étudiant en tout cas, ou alors il faut avoir un job étudiant à côté, là, on est vraiment tout le temps là-dedans. Le savoir travailler seul aussi, c'est-à-dire être indépendant. Même si c'est un travail collectif, le théâtre, il y a quand même la responsabilité du rôle, la responsabilité de la préparation, de la partition à inventer, à créer. Mais en tout cas, c'est ça que j'ai appris. Ça m'a donné confiance aussi. J'ai des professeurs très importants qui m'ont donné confiance, qui m'ont détendu. J'étais quelqu'un de plutôt tendu. J'étais un acteur serré. Je me suis détendu au conservatoire. J'ai pris plus d'ampleur.
Oui, ça fait beaucoup de choses, en 3 années de conservatoire. Et puis donc, on arrive à fin 2005, vous entrez au Théâtre National Populaire, qui est alors dirigé par Christian Scaretti, avec qui vous allez travailler à plusieurs reprises. Moi, ce sont les premières fois où je vous vois jouer, notamment, je me souviens de Coriolan, de Par-dessus Borne, Michel Vinaver, grande recréation. Oui. C'était un événement, mais je voudrais évoquer une autre collaboration avec Christian Benedetti. Avec ces fameux Tchekhov, vous avez joué, vous, avec lui, La Mouette et puis 3 sœurs. Avant d'évoquer cette expérience, on va écouter un extrait de l'entretien que j'avais eu avec Christian Benedetti dans cette émission. C'était en novembre 2020.
Tchekhov, c'est une révolution littéraire et théâtrale. Le premier qui, avec La Mouette, n'écrit plus qui écrit plus acte 1, scène 1, scène 2, c'est l'arrivée ou la sortie des personnages, mais qui écrit par acte à partir de La Mouette. Et c'est une façon de dire que le personnage n'existe plus, mais qu'à la place, il y a des rôles et des structures de pensée. C'est une révolution. Et puis, il utilise tous les outils que le cinéma va mettre en place au fur et à mesure. Il y a, le mélange du temps réel et du temps dramaturgique. Il y a énormément, il a inventé des choses qui sont, complètement insensées quand on pense qu'il n'a écrit que 6 grandes pièces. Et que
oui, mais quelle pièce
lui qui avait l'air de dire que oui, il faisait ça un peu comme ça sans y prêter forcément grande attention. En fait, il y prêtait une attention immense parce qu'il était absolument conscient. Quand il écrit La Mouette, il écrit avant, j'écris non sans plaisir une pièce qui va à l'encontre de toutes les règles dramaturgiques. Donc, il sait exactement ce qu'il fait.
Alors ce rôle de Tréplef que vous avez joué dans La Mouette, Xavier Legrand, et plus largement le théâtre de Tchekhov, donc avec Christian Benedetti, sont des choses, des moments importants pour vous?
Ouais, ouais, Tchekhov, ça a été une envie depuis tout jeune homme de le jouer. Je ne l'ai joué que, oui, qu'avec Christian. J'avais jamais joué de Tchekhov avant, même au conservatoire. Je l'ai pas, voilà, on est passé à côté. On a travaillé d'autres textes sauf celui-ci. sauf ceux de Tchekhov. Et oui, il y a, bah, effectivement, dans ce que Christian dit, effectivement, il a un peu révolutionné, la dramaturgie, le jeu aussi, parce que Tchekhov, c'est aussi Stanislavski. C'est une méthode après. Qui a quand même eu une grande influence dans le théâtre, dans le même le travail des acteurs. Donc c'est oui c'était puis on l'a joué. Ce qui était super aussi, c'est qu'on l'a joué longtemps. C'est-à-dire que c'est vraiment en plus une pièce qui, enfin des rôles qui s'étoffent de représentation en représentation, même d'année en année. On les a joués quand même plusieurs années. Donc on vieillit avec eux et ils s'étoffent et c'est ça, c'est assez jouissant quoi.
Ouais. Et puis il y a cette dimension évidemment qui vous intéresse chez Tchekhov le médecin hein, qui s'intéresse vraiment à ces personnages, qui s'intéresse aux êtres. Et ça c'est quelque chose qu'on retrouve dans votre cinéma. Il y a quelque chose de Tchekhov dans la façon dont vous regardez avec empathie, y compris les méchants.
Oui, c'est-à-dire d'essayer de les mettre, de les mettre au même, de pas les juger, de montrer comment ils sont. Il est un peu, il prend pas parti. Il montre à la fois la beauté de l'humain et la bêtise et les erreurs et les mauvais choix et même les mauvaises tendances. Mais il est assez parti. On sent qu'il est médecin, ouais. On sent qu'il a un regard autre sur l'humanité que de la poésie. Il y a vraiment le concret de la vie, la santé, le corps, ouais.
Ça, ce sont des éléments qu'on va retrouver dans les films que vous allez réaliser. Mais alors, avant de devenir à votre choix de devenir cinéaste, Xavier Legrand, votre choix musical, alors qu'il s'est porté sur un nouveau titre de Lily. Alors, il faut dire Lily J ou Lily G?
Je crois que c'est Lily G.
Lily G, quand même.
Oui, je crois. Oui, oui. C'est Mathilde Honneveu.
Oui, en fait. C'est le nom musical d'une artiste qu'on connaît donc sous un autre nom, Mathilde Honneveu, qui a joué dans votre court-métrage et dans votre premier long métrage. C'est intéressant d'avoir deux pratiques artistiques comme ça.
Ah bah oui, surtout que non seulement Mathilde est une actrice exceptionnelle, mais elle a une voix magnifique et je pense qu'elle... Elle a commencé par la musique parce qu'elle jouait avec son père. Elle était en plus dans un répertoire plus jazz, je crois. Et je l'ai aussi d'ailleurs rencontrée par la musique. Jusqu'à la garde, elle chante une chanson. Et oui, je pense qu'elle aime les deux. Je crois qu'elle n'a pas envie de choisir. Et je trouve que c'est bien en tant qu'acteur de pouvoir aussi avoir une autre discipline.
Ouais, elle a raison. Jenny Beth fait la même chose. Et ça lui a réussi plutôt pas mal non plus. Mais on va écouter donc ce titre, qui est le dernier en date de l'ING, c'est The Waiting Line. Waiting Line, c'est Lily G. Voilà, choix musical de Xavier Legrand pour faire découvrir cette artiste, également comédienne, mais c'est pour son univers musical. Mais on va revenir à votre parcours, parce que alors, la cinéphilie, là aussi, je crois, a été précoce. Autre souvenir marquant, semble-t-il, du JFK d'Oliver Stone. Vous dites peut-être rétrospectivement qu'il y a une graine qui est semée là, d'un désir de réalisation.
Oui, alors qui n'était pas du tout conscient, mais c'est vrai que moi je découvrais. En plus, je sais pas quel âge j'avais, mais j'étais j'avais 12 ans, je pense, quand il est sorti, et je découvrais la petite histoire dans la grande, en fait, parce que JFK, je ne connaissais, enfin, je connaissais, mais sans. Et là, rentrer dans les rouages de cette affaire, le montage, la puissance du montage, la puissance des images, du. J'ai été, puisque c'est un film long, un film politique, et là, je me suis dit, waouh, le cinéma a une puissance quand même extraordinaire. Ouais.
Et puis, il y a cette envie qui monte, de raconter des histoires notamment nourries par votre amour pour la tragédie antique. Si j'ai bien compris, vous pensez au départ écrire pour le théâtre, avec l'idée que, dans les tragédies modernes, c'était celle des violences conjugales que vous aviez envie de traiter, mais si j'ai bien compris, donc vous avez réalisé, c'est le cas de le dire, que c'est par le cinéma, en fait, que vous pourriez mieux vous exprimer, c'est comme ça que c'est vraiment fait, et une forme d'évidence.
Oui, mieux m'exprimer, ou même je dois dire que j'ai découvert mon écriture et que j'ai découvert que mon écriture était plus cinématographique que théâtrale, parce que je pense peut-être par aussi timidité par rapport aux auteurs que je jouais, parce qu'il faut une langue. Le théâtre en France n'est pas que sur la dramaturgie, il y a aussi la langue, la poésie, et je crois que j'avais du mal à la trouver. Cette langue, cette poésie. La poésie, je l'ai trouvée dans les images, je l'ai trouvée dans la dramaturgie cinématographique. Donc, en fait, naturellement, j'ai dit, mais je suis en train d'écrire un scénario. J'étais bloqué avec, en fait, la contrainte de la scène, du décor. J'avais besoin aussi de sortir, de rentrer, d'aller partout. Donc, c'est venu comme ça.
Alors, c'est venu, et alors, hasard de la vie aussi, vous rencontrez Alexandre Gavras qui, à ce moment-là, lui, veut se lancer dans la production. Et c'est avec lui que vous allez faire donc ce premier court-métrage avant que de tout perdre, seul pour l'instant. C'était en 2012 avec déjà Léa Drucker et Denis Ménochet et Mathilde Honneveux. Court-métrage, alors très très bien accueilli au festival de Clermont-Ferrand, si je résume, Grand Prix National, Prix du Public, Prix de la Presse Télérama, Prix de la Jeunesse. Il est sélectionné aux Oscars 2014, il reçoit le César du meilleur court-métrage en 2014. Ça commence bien, et donc ce trio, on va le retrouver dans ce premier long métrage Jusqu'à la Garde. Au départ, ai-je lu, vous vouliez réaliser trois courts métrages, une trilogie en courts métrages. Qu'est-ce qui vous a fait vous dire, c'était plutôt une bonne idée a priori, qu'il fallait faire plutôt un long directement?
Parce que en fait, les trois le vrai projet à la base c'était donc trois courts-métrages sur la violence conjugale, mais je voulais en plus jouer avec trois couples différents, mais qui portaient les mêmes prénoms, et avec trois temps de la séparation dans un cadre de violence, donc le jour de la fuite, le divorce et les conséquences du divorce. Mais le fait de séparer la décision et l'après me semblait en fait être contre-productif. Il fallait qu'on puisse assister tout de suite. Donc du coup, les deux autres films, j'ai préféré les mélanger et en faire un long. Voilà, tout simplement. Et garder Léa et Denis.
Pourquoi s'en priver ?
Exactement.
Lors de la sortie de Jusqu'à la Garde, vous évoquiez un trio de cinéastes, pour vous, majeurs, Xavier Legrand. Vous avez cité Claude de Chabrol, Alfred Hitchcock et Michael Haneke. Alors du coup, on va les entendre tous les trois pour avoir abordé divers aspects de votre cinéma. Alors en février 2009, je recevais sur cette antenne Claude Chabrol à l'occasion de la sortie de ce qui sera son dernier film, Bel Ami. Écoutez cet extrait.
Un plan, c'est à la fois un élément du récit, mais il doit avoir son sens, c'est-à-dire que si vous mettez le pot de fleurs, il faut qu'il y ait une raison au pot de fleurs. Ou s'il n'y a pas de raison au pot de fleurs, il peut être purement décoratif, mais à ce moment-là, il faut que le spectateur le sente. Et c'est ça le C'est ça le grand truc. Je vous donne l'exemple le plus simple et le plus bête. C'est dans quand il y a des gens qui se parlent l'un en face de l'autre et ils sont, il y en a un qui est à droite et l'autre est à gauche. Bon, alors disons que le bon est à droite, le méchant est à gauche. Et puis d'un seul coup, on veut montrer que c'est pas si simple que ça. On fait un mouvement qui se tourne et celui qui est à droite se retrouve à gauche, celui qui est à gauche se retrouve à droite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de certitude, il n'y a plus de certitude du bien et du mal. Voilà. Et on peut jouer avec l'ombre et la lumière aussi comme ça. Ben, c'est ça le plaisir du cinéma, c'est ça le plaisir de tourner. Et c'est mieux que les plans inutiles.
C'est sûr. Alors Claude Chabrol, toujours impeccable et imparable, mais l'ambiguïté, évidemment, c'est un des moteurs principaux de Jusqu'à la Garde. En quoi Claude Chabrol ça est une influence pour vous, Xavier Legrand?
C'est pas tant dans ces thèmes que justement de ce qu'on entend là. Moi, en fait, j'ai découvert Claude Chabrol jeune aussi, parce que ma mère aimait aussi Claude Chabrol, donc j'ai vu des films, bon, sans vraiment trop les comprendre. Mais c'est après où je l'ai redécouvert, et notamment dans les bonus de DVD où il explique des scènes. Je crois que j'ai appris à être réalisateur en l'écoutant, parce qu'effectivement, un personnage qui est seul dans le cadre où on voit le personnage qui parle en amorce ou pas, raconte quelque chose, son isolement ou alors sa connexion. Et effectivement, il y a toute une sorte de petite cuisine qu'il se fait de symboles, hein, parce que c'est beaucoup de symboles finalement. Et je trouve que effectivement, quand on le voit, on l'entend expliquer ses plans, ils nous paraissent d'une évidence. On ne les sent pas en regardant. Enfin, on ne le comprend pas en regardant, mais on sent ce qu'il veut raconter.
Alors, dans Jusqu'à la Garde, c'était évidemment très dur à tenir cette ambiguïté. Voilà. Où est la vérité, on va dire ça comme ça, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore vu. Mais ça passait dans ce film-là par des séquences très longues, comme un temps qui s'étire, avec une tension qui croît, l'idée de l'élastique qui va peut-être casser et nous revenir à la figure, que le drame advienne d'une certaine façon. Vous jouiez beaucoup avec les nerfs des spectateurs. La durée des séquences, vous la décidiez comment? Et jusqu'à la table de montage, ça se décide comment ça?
Bah ça se décide déjà dès l'écriture en fait. Ouais, c'est dès l'écriture qu'on sait que là, ce moment-là, on va demander à ce qu'on s'installe dedans. Parce que pour moi, une tension en fait ne peut pas se trouver. Enfin, on confond souvent rythme et tension. On veut donner du rythme à une scène en la montant, et en fait, elle n'est pas forcément tendue. Et une tension ne peut exister que si elle n'est pas là, mais qu'on la voit naître. Donc pour la laisser s'installer, il faut lui laisser le temps. Et c'est vrai que le temps réel participe vraiment à la tension.
Ouais, mais encore faut-il savoir diriger les interprètes.
Oui, bah c'est sûr que ça s'écrit, ça se pense. Pourquoi? Parce que dans tout ce temps, il doit toujours se passer quelque chose. Donc ça se décrit beaucoup. C'est vrai que les séquences comme ça, qui sont silencieuses et qui s'installent, je les décris énormément. Ou au son, lorsqu'on entend hors champ quelque chose, ou les micro-respirations, même j'essaie de traduire un peu le cheminement de la pensée du personnage pour que on puisse le comprendre dans le corps. Enfin, c'est assez passionnant à faire. Ouais. J'aime beaucoup ça.
Ouais. Et vous le faites très bien. Alors, et à propos de suspense, donc, écoutons le maître du genre lors des séminaires à l'American Film Institute en 70. Alfred Hitchcock était interrogé, sans doute pour la millième fois, sur la différence entre mystère et suspense. On va écouter sa réponse.
You know, you see many films, there's a great confusion, especially in my particular genre of work. There's a great confusion.
Dans de nombreux films, il y a une grande confusion, surtout dans mon genre particulier, entre les mots mystère et suspense. Or, ces deux notions sont très éloignées l'une de l'autre. Le mystère est un processus intellectuel, comme dans le cas d'un whodunit. Mais le suspense est essentiellement un processus émotionnel. Par conséquent, l'élément de suspense ne peut être déclenché qu'en donnant des informations au public. Et j'ose dire que dans de nombreux films où il se passe des choses mystérieuses, vous ne savez pas ce qui se passe, pourquoi l'homme fait ceci, pourquoi cela, et vous êtes à peu près au tiers du film avant de comprendre de quoi il s'agit. Et pour moi, c'est du métrage complètement gâché parce qu'il n'y a pas d'émotion.
Alors, Alfred Hitchcock, hein, Qu'aurait-il pensé du successeur, votre nouveau film, Xavier Legrand? Parce que vous nous donnez, disons-le, beaucoup d'informations à nous, spectateurs, informations que je ne donnerai certainement pas aux auditrices et auditeurs de cette émission. J'espère que les articles de presse en feront de même. Les informations que nous recevons en regardant ce film, nous les avons en même temps que le personnage principal, Elias, donc jeune créateur de mode, qui, au moment où le film débute, atteint une sorte de consécration, puisqu'il vient d'être nommé à la tête d'une grande maison de haute couture dont le créateur est décédé. Autre décès, je n'irai pas beaucoup plus loin dans le résumé du film, on lui apprend la mort de son père, il doit retourner au Québec pour régler la succession. Le reste, je ne le dis pas. Ce sur quoi je veux insister, Xavier Legrand, c'est que les secrets qu'on va découvrir au fur et à mesure du film, seul Elias et nous, spectateurs, les connaissons, tous les autres personnages du film les ignorent, et c'est ça qui crée le suspense, c'est la leçon aussi du cinéma d'Hitchcock, ça.
Oui, oui, il y a ça, il y a effectivement des... Et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que tout le début du film travaille sur des fausses pistes, et les fausses pistes participent au suspense, parce que nous, en fait, on travaille. Quand il disait, on donne des informations au spectateur, c'est que lui-même essaye de trouver un sens à tout ce qu'il comprend. Et à partir du moment où voilà, le spectateur est actif, le suspense opère. Ouais.
Ce film, c'est une adaptation du roman L'Ascendant d'Alexandre Postel, que vous avez écrit le scénario avec Dominique Parenteau-Leboeuf, qui a, comme vous, Xavier Legrand, alors un grand pied du côté du théâtre, mais aussi du côté de l'audiovisuel. Elles, ce sont les séries télé. Qu'est-ce que vous attendiez de cette collaboration? Parce que, sauf erreur, vous avez signé seul le scénario de Jusqu'à la garde?
Oui, tout à fait.
Oui. Alors, donc, c'est une première en duo. Qu'est-ce que vous attendiez d'elle?
Alors, déjà concrètement, c'est de québéciser, oui. Je sais pas si
le contexte québécois,
oui, voilà, parce que c'est pas ma culture et que je ne connaissais pas d'ailleurs le Québec, je n'y étais jamais allé avant ce projet. Mais aussi parce que c'est un film qui a mis du temps, hein, on a bien vu que oui. J'ai mis du temps à le faire parce que le sujet était quand même assez audacieux et que c'est rompre la solitude complètement en fait, parce que quand on est trop seul avec ce personnage qui est souvent seul en fait dans ce film, j'avais vraiment besoin d'avoir un regard neuf, d'avoir quelqu'un avec qui collaborer de façon très étroite, et puis aussi parce que moi Dominique je l'ai rencontrée par ses textes de théâtre, parce qu'elle était venue, je sortais du conservatoire et elle a écrit des pièces de théâtre qui ont un peu comment dire cet humour funéraire qui correspondait très bien, et voilà Dominique ça a été et une rencontre humaine mais aussi artistique, et il était évident que je devais faire appel à elle en tant que québécoise et autrice de grand talent. Quoi. Ouais.
Le changement principal par rapport au roman, c'est le métier du personnage principal. Un créateur de mode, il était quoi? Vendeur de téléphone.
Vendeur de téléphone.
Créateur de mode, ça ressemble pas mal à un cinéaste. Il est très entouré, mais il est aussi très seul à prendre des décisions. Bon, je m'arrêterai là. J'ai cru voir Julien Gosselin, en fait, quand on voit arriver Marc-André Gondrin à l'écran, parce qu'il y a ce look comme ça, très stylé. Mais pourquoi ce métier-là?
Déjà, je voulais. C'est vrai que par rapport au roman, il y avait plein de portes d'entrée qui, du coup, que j'avais envie en fait d'explorer, et notamment l'aspect de la chute d'un homme, parce que on assiste à la chute de quelqu'un. Mais c'est vrai que quand il vend des téléphones, il chute du deuxième étage, et je voulais qu'il chute du 20e, parce qu'en plus, il fallait lui trouver un poste de lumière, un poste qui ne mérite aucune éclaboussure, et en même temps aussi parce que la mode, je trouve, c'est bon, à part quand on fait un biopic sur un grand couturier, c'est vrai qu'il y a très peu de films de fiction qui vont vraiment s'intéresser à ça, et même si ce n'est qu'un prétexte parce que ce n'est pas un film sur la mode, mais en même temps, voilà, il travaille avec les femmes, il respecte les femmes, il les habille, mais en même temps, on les objectivise aussi dans ce métier. Et donc, thématiquement, je trouve que ça a rassemblé plein de choses pour le film.
Ouais, c'est dur de pas en dire trop, on ne va pas divulgâcher, nos amis québécois. Mais prendre la tête d'une maison de haute couture qui porte le nom de son créateur, ça pose aussi la question de l'héritage. On continue à jouer, à parler du film sans trop en dire, Xavier Legrand, mais cette question-là, elle travaille Elias donc de façon autant professionnelle que personnelle.
Oui, tout à fait. C'est qu'elle... quelle histoire on porte et laquelle on écrit, et en même temps on ne peut pas l'écrire d'une page blanche. Il y a toujours quelqu'un derrière. Pour la haute couture, d'ailleurs on a vraiment essayé de trouver un créateur qui puisse et traduire en fait héritage et rupture. C'est-à-dire, comme tous les créateurs qui vont dans les grandes maisons de couture, il y a une sorte d'ADN de la maison qu'il faut respecter, mais en même temps on fait appel à un créateur pour qu'il vienne apporter sa patte aussi.
Ouais. De quoi on hérite et qu'est-ce qu'on imprime.
Ouais, exactement.
Alors, on va poursuivre sur la question du suspense, qui est aussi quand même... Donc, on a déjà bien compris la question de la place du spectateur. Alors là, j'avais rencontré Michael Haneke à Cannes, c'était en 97. Au moment où il présentait le terrifiant Funny Games. Écoutez cet extrait.
Le film est une provocation, c'est un coup de pied dans le ventre, si vous voulez. Je veux que le spectateur devienne assez conscient de son propre rôle dans le jeu. Alors, c'est-à-dire, j'ai parlé tout à l'heure du moment où le film tout d'un coup bascule dans la violence, et là justement le spectateur se rend compte qu'il ne s'agit plus d'un jeu. C'est à partir de ce point, le film, par de différentes ruptures esthétiques, dramatiques, permet au spectateur de se rendre compte de son rôle en tant que consommateur dans le jeu de la violence telle que le cinéma de genre le véhicule d'habitude. À ce point, justement, déstabilisant, donc le spectateur est amené à se poser la question de son rôle dans la production de ce genre de violence et à quel point il peut donc supporter la violence aussi.
Funny Games, c'est vraiment... éprouvant, ce genre de film, enfin moi qui m'a terriblement marqué, mais j'ai pas du tout envie de revoir. Je fais partie de ces films-là qui travaillent en effet cette question de la violence que vous travaillez aussi. Maintenant, on peut le dire à nouveau, Xavier Legrand. Le cinéma de Michael Haneke, en quoi il est important pour vous ?
Il est important, oui, parce qu'il, lui, il interroge vraiment profondément la place du spectateur et il n'a pas justement comment dire, un film n'est pas seulement pour séduire, un film n'est pas seulement pour donner aux spectateurs ce qu'ils ont envie de voir. On vient un petit peu les mettre dans un inconfort pour les faire réagir, et puis aussi parce que je trouve son cinéma est physique, c'est-à-dire que c'est un cinéma de corps. Même s'il est réputé pour la froideur, il y a quand même aussi beaucoup de fièvre. Alors de fièvre peut-être pas bouillante, mais une fièvre malaisante, une fièvre troublante. Et oui, c'est un cinéma qui me passionne, qui m'effraie aussi. Hein. Il y a certains films où je trouve qu'il va loin, mais bon, ouais, il est très important, je trouve, dans le paysage cinématographique.
Alors concernant la place du spectateur, toujours, j'ai souvenir de cette séquence, une séquence qui m'avait particulièrement marqué dans Jusqu'à la gare. Alors du coup, je l'ai revue, cette scène de justement où il y a cette chanson, une scène de fête, une soirée, et ce qui est très frappant dans cette scène, c'est qu'on voit des personnages parler, mais qu'on n'entend pas ce qu'ils disent. Donc voilà, tout passe par justement la tension des corps, les regards, les attitudes, une sorte de chorégraphie dans cette salle des fêtes. Une idée comme celle-là, comme cette scène-là, elle vient comment pour vous, Xavier Legrand ?
Elle vient d'un principe très simple, c'est que dans le film, il n'y a pas du tout de musique. Et mis à part la musique, comme on dit, intradigétique, c'est-à-dire une musique que les personnages aussi entendent, où ils sont en capacité d'arrêter, d'interrompre, de mettre plus fort ou pas. Et donc du coup, je me suis dit, ben voilà, dans cette séquence, on va laisser la place à la musique, et on va pas donner une parole, on va s'amuser à montrer comment une rumeur, parce que c'est l'histoire d'une rumeur, qui vient un petit peu se développer dans cette salle où c'est la fête, où tout le monde est là pour fêter l'anniversaire du personnage. Donc c'est, oui, c'est une sorte de principe radical de se dire, allez, on y va complètement, on va être dans la fête, dans la musique, et on va essayer de donner les informations autrement que par des dialogues.
Alors, avec ce nouveau film, la question de la direction d'acteur est encore une fois intéressante, parce que là, sans cette scène qu'on évoquait, ils parlent sans qu'on les entende, mais d'une façon plus générale, comment est-ce que vous travaillez avec vos interprètes ? C'est une question évidemment qui nous importe, et en l'occurrence avec Marc-André Grondin, qui est de tous les plans, ou presque, je n'ai pas vérifié, c'est compliqué à vérifier, mais de votre nouveau film, Le Successeur. Comment est-ce que vous l'avez accompagné dans ce voyage vers ce rôle?
Lui, il dit que j'ai été son phare dans le brouillard, parce qu'effectivement, il est très seul, et il est très seul dans cette maison, où il a énormément de différentes actions à faire. Donc moi, j'ai été surtout en fait là pour le guider dans le rythme, dans la clarification de ses intentions, puisqu'il ne s'exprime pas avec des dialogues, il ne va pas commenter ce qu'il fait. Il n'était pas question de mettre une voix off pour essayer de faire comprendre au spectateur voilà ce qu'il était en train d'essayer de comprendre de cette situation ou de s'en défaire. Donc on a c'est travailler sur un rythme de dire là prend plus de temps, là en fait non c'est très concret, va plus vite, c'est pas ça qui importe, c'est l'étape d'après. Donc c'était comme une vraie partition presque de danser musicale aussi pour les histoires de voix plus un mot plus aigu, plus chuchoté. Donc c'est des choses, des petits détails. Mais il n'y avait pas du tout, c'est pas du tout, en général, c'est pas comme ça que je travaille. S'il y a des points psychologiques ou psychiques sur les personnages, on le fait à la table, en lecture, on se donne des chemins. Mais sur le plateau, c'est que concret. Que le concret qui peut nous aider à exprimer tout le reste.
J'aurais bien envie d'évoquer une séquence sans trop en dire, mais disons qu'il y a une séquence où il pleure particulièrement, au milieu d'autres personnes, sauf que il pleure pas pour les raisons que les personnes qui sont là imaginent qu'il pleure. Donc, une scène comme ça, quelles indications très concrètes vous donnez à Marc-André Grondin?
C'est, écoute, il faut que tu morves.
Oui, c'est important.
Oui. Et puis comme c'est un personnage qui contrôle son image, on le voit dès le début, puisqu'il est question qu'il pose sur une couverture de magazine, donc il est très très vigilant sur l'image qu'il va renvoyer. Je dis non, là il soit complètement abandonné à être regardé par qui que ce soit. Donc il ne prend même plus la peine d'essuyer les larmes qui lui coulent sur la joue. Il faut que ça aille. Et c'est une séquence où c'est long. Il pleure pendant plusieurs minutes. Donc voilà, c'était trouver une graduation dans les pleurs pour qu'à la fin, en fait, il y ait un abandon total, que ce ne soit même plus... qu'il soit inconsolable, quoi. C'est les larmes que... Des larmes d'enfants... des larmes qu'on il n'y a plus rien à faire, quoi. C'est la dernière chose qui peut arriver.
Et encore une fois, seul lui et nous, spectateurs, savons vraiment d'où viennent ces larmes.
Oui.
Le successeur, c'est donc le titre de ce nouveau film. Je me demandais quelle part il y avait quand même aussi d'humour, de clin d'œil, dans le fait de nommer ainsi le film qui succède à Jusqu'à la garde, dont on rappelle qu'il a notamment reçu 4 Césars, dont le meilleur film et meilleur scénario. Le successeur, c'est pas mal comme titre de deuxième film après un premier film qui a eu tant de succès.
Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que je sais pas si c'est peut-être un peu inconscient, mais il y a une sorte de s'amuser que le deuxième film, je sais très bien que j'étais très attendu et que je le suis. Et Dieu sait que le succès du premier a été tellement formidable pour moi, mais c'est aussi un peu écrasant. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire après? Il y a des gens qui me disent pourquoi t'as fait ce film-là après Jusqu'à la garde. J'ai envie de dire mais qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez la recette.
Le 2.
Oui. Et de toute façon, on est attendu. Les gens ont déjà une désinformation par rapport au premier. Quand on découvre un film de quelqu'un, on découvre. Là, il n'y a plus de découverte. Il y a déjà des indications ou des attentes. Je pense que c'est, on fait le deuxième, c'est le successeur et voilà, quoi.
Et demain, il appartiendra à tous.
Oui, exactement.
Il sort donc demain ce nouveau film, Le Successeur, allez-y le plus tôt possible. Ouais, c'est toujours une recommandation à faire, parce que la vie des films commerciales se joue dans les premiers jours. Donc n'attendez pas, il y aura les Césars vendredi, il y aura d'autres films à voir que vous allez rattraper. Mais allez voir d'abord Le Successeur. Merci beaucoup Xavier Legrand d'avoir été notre invité.
Alors, merci à vous, merci beaucoup.
France Culture. Affaires culturelles. Arnaud Laporte.
Cream, Plastic Ono Band, Super Heavy. L'histoire de la musique ne manque pas de super groupes, ces formations souvent éphémères, composées de musiciens déjà rendus célèbres par leur groupe ou leur carrière solo. Il y a bien All-Star Band à suivre en ce moment, c'est du côté des Amazones d'Afrique qu'il faut se tourner. L'origine de cette formation remonte à 2014, quand trois légendes de la musique malienne, Mamani Keïta, Oumou Sangaré et Mariam Doumbia, décident de former un collectif de combat contre les violences faites aux femmes. Leur nom renvoie tantôt aux Amazones du Dahomey, un groupe militaire féminin actif jusqu'à la fin du 19e siècle dans ce royaume du Dahomey, situé dans l'actuel Bénin, tantôt aux Amazones de Guinée, un groupe de musique formé dans les années 1960. Forte de cet héritage, les Amazones d'Afrique ont étendu leur formation de nouvelles voix, originaires de tout le continent. Déjà riche de deux albums, parus en 2017 et 2020, elle récidive avec un nouvel opus, Musao Dance. Si la formation change au gré des albums et des tournées, elle est composée sur celui-ci de l'incontournable Mamani Keïta, de la germano-nigériane Neka, de la burkinabé Candy Guira, de la béninoise Fafa Rufino et de deux nouvelles venues, la congolaise Alvik Bitemo et l'ivoirienne Dobet Naoré. Sur le morceau Kumafo, les musiciennes revendiquent haut et fort la liberté d'expression des femmes. C'est notre son du jour.
Is happy,
C'était comme info des Amazones d'Afrique. Elles seront en concert à Saint-Dizier le 2 mars, à Oyonnax le 27 mars et Blois le 29 mars.
France Culture, le grand tour, Marie Sorbier.
Bonsoir chère Marie, où êtes-vous donc ce soir ?
Bonsoir Arnaud, hier nous avons visité le musée dédié à Pierre Soulages à Rodez et ce soir, direction Conques, petit village dans l'Aveyron, pour visiter avec Benoît Decron, toujours conservateur du musée, l'abbatiale, haut lieu de pèlerinage, mais aussi l'écrin des vitraux signés par le peintre.
Alors les pèlerins, ils arrivent par le village, ils descendent, hop, et ils arrivent à l'abbatiale.
Parce que là, Benoît, on vient d'arriver à Conques.
Oui, on arrive à Conques.
Conques, c'est quoi, 45 minutes de...
Conques, c'est 45 minutes de Rodez. C'est des routes absolument charmantes qui virounent pas mal, comme on dit chez moi. Donc c'est vraiment une parenthèse, c'est un lieu à part, quoi. C'est un lieu à part parce qu'il y a très peu d'habitants, parce que l'habitat est quand même resté un peu comme à Cluny, un habitat médiéval.
On est encore sur le chemin de Compostelle, là.
On est sur le chemin de Saint-Jacques, oui. C'est un des lieux importants parce que les reliques sont des lieux de transition économique.
Puis là, on a beaucoup de chance aujourd'hui parce que la lumière est avec nous. Il y a un très beau soleil.
On l'a commandé pour France Culture.
Bravo.
Voilà.
Merci.
Je vous ferai passer la facture. Pierre Soulages, il voulait des vitraux qui soient complètement raccord avec l'architecture et avec la nature des pierres. Et donc ces pierres qui sont soit des pierres de schiste un peu grises, comme on voit ici, des grès, ou et tout simplement des pierres de rougier, c'est-à-dire rouges, ça fait une espèce de paroi. Et donc quand il a fait ces vitraux, qui sont en verre, donc qui sont minéraux, donc c'était intéressant de faire un lien évident entre le vitrail. Si on regarde bien le vitrail, il n'y a pas vraiment de châssis autour du vitrail. Mmh. Le vitrail, il est accru sur la pierre, quoi. Et c'est ça qui intéressait Pierre. Comme tous les gamins de l'Aveyron, il a fait des séjours scolaires. Et il est allé plusieurs fois à Conques. Et une fois, il est arrivé à Conques, il était adolescent, c'est lui qui le raconte. Et quand il arrive à Conques, il trouve d'abord que son contentement parce que c'est un art parfait. Il s'intéresse à l'art roman. Donc, il trouve que c'est une architecture parfaite. Et c'est là qu'il décide qu'il va devenir peintre. Et lui, Pierre, disait avec humour qu'une fois qu'il était à Conques, il a pensé qu'il ne perdrait pas sa vie à la gagner. Voilà.
Voilà l'abbatiale. Là, on entre dans l'abbatiale.
Il y a 104 vitraux de toutes dimensions. Voilà. Et donc, l'abbatiale de Conques, la première commande, les débuts de la commande, c'est 86. Le vernissage, c'est 96. Ça a usé trois ministres de la culture. Et Pierre Soulages, pour la petite histoire, a arrêté quasiment de peindre pendant un an et demi pour faire ses vitraux de Conques. Moi, je pense que son cœur repose ici. Il y a quelque chose de Pierre qui est là.
Comment Soulages s'est retrouvé à créer des vitraux ici? Est-ce que c'est une commande? Est-ce que c'est un choix de sa part?
C'est tout simplement parce que une des missions quand même de la délégation aux arts plastiques et
du ministère
de la Culture, c'est d'enjoliver les beaux bâtiments. Et donc ce sont les commandes publiques. Et parmi ces commandes publiques, à peu près 90% d'entre elles concernent des bâtiments religieux. Dans le cadre de Pierre Soulages, en première intention, je ne pense pas qu'il était intéressé par une commande publique. Bon, voilà, il a un peu traîné des pieds. Puis après, on lui a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Il s'est fait un peu prier. Alors, on lui a proposé Reims, on lui a proposé Nevers, ensuite, on lui a proposé Tronoens, et puis après, on lui a proposé Sylvanès, ça se trouve en Aveyron. Et puis finalement, on lui a dit, mais au fond, qu'est-ce qui vous plairait? Et alors, Pierre a dit qu'il n'a jamais demandé, et en fait, non, il n'a jamais demandé, mais quand on lui a suggéré Conques, évidemment, c'était là, c'était le seul endroit où je crois qu'il voulait faire quelque chose. Moi, j'ai visité souvent, en plein hiver, l'abbatiale avec Pierre. Et il aimait bien y retourner tout seul, regarder, voir comment ça avait vieilli et tout ça, quoi.
Parce qu'un peu comme les œuvres de Pierre Soulages dont vous nous avez parlé hier, les vitraux, ici aussi, changent de lumière et donnent une ambiance totalement différente selon le moment de la journée, selon la lumière.
Voilà. C'est-à-dire qu'on va continuer à faire le tour.
qui rend l'abbatiale très vivante, quoi.
Voilà. On voit très bien que sur les heures de la journée, tout dépend de la lumière. On peut, certains jours, avoir, puisque la lumière traverse le verre et que cette lumière porte les couleurs, eh bien, à l'intérieur de l'abbatiale, quand bien même on ne voit pas l'extérieur, on voit ces couleurs donc, qui s'échelonnent entre le gris, le perle, le rose.
Oui, là, on a un peu de rose en face de nous.
Ouais, là. Ouais, ouais. Et ça, Pierre le savait quand il a fait ses vitraux et quand il a conçu son verre, il savait qu'à l'intérieur, au cœur du verre, il y avait ces couleurs. Par contre, ce qu'il ne savait pas, ce qu'il n'avait pas mesuré, c'était l'action de la lumière sur les verres, mais à l'extérieur. C'est pour ça que l'abbatiale est très particulière. Ce qui était intéressant, c'est que justement, on avait l'habitude de vitraux figuratifs et de vitraux avec des couleurs. Or, les vitraux figuratifs, eh bien, c'est la première, donc c'est le Saint-Sulpice, et c'est après, c'est la première période de l'art sacré. Mais après la Seconde Guerre mondiale, l'art religieux et l'art sacré, ils travaillent beaucoup avec des artistes qui sont des artistes non figuratifs. Certains sont religieux, d'autres ne le sont pas. Par boutade, c'est Fernand Léger qui disait que l'art sacré était bien trop sérieux pour être confié à des curés. Et donc, Soulages, lui, quand il fait ça, il est dans une génération après ces artistes comme Manessier, Bazaine, Fernand Léger, Juan Miró, etc., qui ont travaillé dans des églises, ou Chagall, bien sûr, au premier chef. Donc lui se méfiait un peu de ça. Donc lui ne voulait évidemment, puisque dans l'œuvre de Soulages, il n'y a ni image ni sens, il voulait des vitraux qui expriment que la lumière en respectant l'architecture. Donc cette continuité sur le mur, voilà.
Alors là, je vous vois sortir les clés telles Saint-Pierre, vous nous emmenez...
Oui, enfin, c'est des clés vachettes. Hein. C'est moins impressionnant que le trousseau de clés
du
bon Saint-Pierre. Attends, c'est 1. Non, il y a des numéros de 4. C'est pas celle-ci.
Et voilà.
Enfin, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui ont envie de passer la nuit là, mais bon... Sur tous les bords, puisqu'on est sur la tribune, ici, tu n'as que des traits horizontaux.
Horizontaux, oui.
Et quand elle est en bas, tu ne le vois pas. Ah. Donc ça, c'est Soulages qui a fait le nécessaire pour que, justement, quand tu es en bas, tu as toujours cette élévation et ce n'est pas coupé par une vision horizontale. Voilà.
Et sur la tribune, on a ces lignes horizontales et toujours pareil, ces vitraux qui reflètent une lumière de couleurs différentes.
Je m'appelle Jean-Luc Barrier, je suis actuellement curé d'une petite paroisse véronaise qui est sur le chemin de Saint-Jacques, qui s'appelle Espalion.
Traditionnellement, on dit que c'était aussi une catéchèse, on y voit des saints, on y voit des scènes de la Bible, on peut y voir plein de choses. Les vitraux de Soulages, ils sont un peu différents, mais est-ce que pour lui, vous diriez que c'était aussi un geste spirituel de créer ces vitraux-là ?
Ah oui. Oui, dans la mesure où son souci, si j'ai bien compris ce qu'il m'a dit, c'était la lumière. C'était de faire entrer la lumière, que rien ne fasse obstacle à cette lumière. Et au contraire, il a fait rayonner cette lumière, puisque vous verrez, les vitraux, la lumière traversant ces vitraux leur donne des couleurs, alors qu'ils sont, ils sont totalement neutres. Mais quand la lumière les traverse, tout d'un coup, ils sont irisés, quoi. Et on voit des couleurs très belles dans ces vitraux. Et ça a donné à l'architecture de Conques une lumière qu'il n'avait jamais eue. Moi, je suis né pas très loin de Conques. C'était un des lieux où j'allais régulièrement, en particulier quand j'étais ado. Et j'aimais ce côté fermé, un petit peu cocon. Quand Pierre Soulages l'a ouvert à la lumière, j'étais, moi, heurté au début. Il y avait trop de lumière pour moi. Mais parce que l'architecture a été glorifiée par cette lumière qu'il a donnée à ce bâtiment. Ouais. Ouais. Ça ou aussi là, son idée que, quand il dit « c'est ce que je fais qui m'apprend ce que je cherche », c'est une de ses grandes phrases, vous savez, c'est-à-dire qu'il se laisse guider par le geste qu'il fait, ce que ça produit, ça le fait évoluer dans la construction de son œuvre. Je trouve que c'est aussi extraordinaire, parce que c'est donc un lâcher-prise, une non-maîtrise. La matière le guide. La lumière le guide, vous voyez ? C'est pas lui qui est le maître absolu. Ça aussi, je trouve que c'est spirituellement intéressant. C'est pour ça qu'il a plein de choses à nous apprendre, je trouve. Et même dans le fait d'utiliser ce minimalisme dans les moyens, enfin, une toile et de la peinture noire.
Suite du grand tour demain, Marie Sorbier, où serez-vous ?
Arnaud, demain, je passerai voir un stage Égalité des chances. C'est un stage qui propose dans toute la France d'aider les lycéens à intégrer une école d'art ou de design après le bac.
Merci Marie et à demain. Cette émission, comme toutes celles de la chaîne, est à écouter ou podcaster sur le site de France Culture ou via l'application Radio France. Une émission préparée avec Boris Pinault, Anouk Minaudier, Jules Barbier, Marceau Vassy, Lise Ripoche et Emma Ruberti.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Dans un futur proche et catastrophique, un homme accepte un poste de gardien à la lisière de la forêt pour une durée de 7 jours. Il remplace le précédent gardien qui, lui, dit-on, est devenu fou.
À partir de maintenant, ton monde commence et s'arrête ici.
Mais il est témoin d'événements très étranges qui vont le conduire à désobéir aux ordres reçus. Fureur de Mehdi Bayad, réalisé par Baptiste